de Zeus.
Bonjour.
Qu'est-ce qui se passe?
Je ne peux pas vous le dire.
Je vous demande une seconde le temps d'installer le prochain film.
Vous me recevez à vous parler.
Qui êtes-vous?
Je n'en sais rien. Et je compte bien le découvrir.
Fini la rigolade.
Cinérama.
Qu'est-ce que c'est que ce nom à la mort moelle-l'œil? Qu'est-ce que vous faites?
Votre émission hebdomadaire sur le cinéma.
Vous avez une autorisation?
Bien entendu, j'en ai une.
Cinérama.
Ce nom, je l'encaisse pas.
Ben ça, c'est ton problème.
Chronique, blind test, interview.
Eh ben, c'est génial.
Amusez-vous bien.
C'est gentil.
Tout le plaisir est pour moi.
Bonjour, Cinérama, c'est 30 minutes pour parler de cinéma. Alors, on parle des films qui sont sur les écrans. On a l'habitude de jouer à des blind tests sonores, et ce sera le cas cette semaine, avec la filmographie de Anis Jaoui. Alors, pas en tant que réalisatrice, même si elle a sorti un film qui s'appelle « L'objet du délit », nous jouerons avec la filmographie d'Anis Jaoui, mais actrice. Et ça, c'est un peu différent, évidemment. Alors, il y a des films qui étaient présentés à Cannes, c'était le cas de ce film d'Anis Jaoui que j'avais raté pendant le festival, mais il y en a un que j'ai pas raté, c'est « La bataille de Gaulle, l'âge de fer » d'Antonin Baudry, et je vous en parlerai dans cette émission, puis je vous parlerai aussi d'un autre film qui était lui sorti à Cannes dans Un certain regard, c'était en 2025 déjà, il sort seulement maintenant, c'est un film plutôt formidable qui s'appelle The Plague, soit La Peste. Et puis toi, Guillaume, tu as un film et il est sur les plateformes.
Oui, mais il était à Cannes aussi, c'est le premier film de John Travolta en tant que réalisateur, Vol de nuit pour Los Angeles.
Allez, on va en 1940, alors que la France s'effondre, un général choisit de refuser l'armistice et de poursuivre le combat. Depuis Londres, nous parlons de la bataille de Gaulle.
Dans mon métier, on demande parfois aux gens des choses bizarres.
Mais enfin, qui êtes-vous?
Cinérama.
As the situation gets darker and darker, surrender now seems inevitable. Only a madman would continue this fight.
Le gouvernement français vous a déchu de votre nationalité et la cour martiale vous a condamné à mort.
Autre chose ?
Cette année, à Cannes, hein, il y avait plusieurs films français traitant de la Seconde Guerre mondiale. En compétition, il y avait Le Moulin, qui bon, traitait évidemment de la Résistance. Notre Salut, qui lui suivait un collabo. Et il y avait encore un film hein, sur cette période de la Seconde Guerre mondiale. C'est La Bataille de Gaulle, L'Âge de Fer, qui lui était présenté hors compétition. Un film bien plus grand public et moins audacieux que les deux précédents, mais qui ne manque pas d'intérêt. Alors évidemment, il est question de Charles de Gaulle. Hein, comme en tout juste promu général, il refuse de voir la France capituler et encore moins collaborer. Le film éclaire ce parcours délicat du moment où il se retrouve alors quasi seul à Londres hein, jusqu'au premier succès américain. La suite, nous l'aurons plus tard dans un deuxième volet qui sortira dans un mois.
Partout, des réseaux sont en train de se former. Ils ont la rage au cœur. Ils veulent se battre.
La France n'a pas capitulé.
Vous n'êtes pas la France!
Nous sommes la France. Vous, nous.
Ce premier volet permet, comme le suivant, de suivre le général dans son entreprise de libérer la France. Et c'est très vite hein, qu'on voit De Gaulle. Alors, sitôt décoré général, filé à Londres où la riposte s'organise. Là-bas, il s'auto-déclare le représentant de la France libre. Pour une grande partie de son récit, Antonin Baudry s'attache à la biographie de Julian Jackson, un Anglais. C'est plutôt une bonne idée, hein, car ça permet aux Français de prendre un peu de distance avec l'icône politique qu'est mon général. Dans ce film, qui va jusqu'à 2h40, hein, deux récits se juxtapose. Alors il y a De Gaulle qui refuse de flancher. Dans ce récit, eh bien, on nous fait part des stratégies du général, des alliés qu'il tente de convaincre hein, à Londres, hein, nous gratifiant de nombreuses entrevues avec Winston Churchill. Il y a la difficulté de s'imposer aux yeux des Américains qui sont prêts à toutes les alliances, même les plus indignes, hein, pour arriver à leur fin. Ils n'ont pas le général en haute estime. Et face à ce récit adoubé depuis longtemps, hein, il y a un autre récit, c'est celui d'un jeune Français de 20 ans qui très vite décide de lutter comme il peut en France hein, contre la présence allemande et la collaboration. Cette histoire donne l'occasion au réalisateur Antonin Baudry d'insuffler une veine alors quasi romantique hein, en faisant intervenir un personnage aussi féminin. Cela va jusqu'à une séquence culminante où il mêle les promesses de la lutte à celles de l'amour, les deux étant contrariés par les tirs allemands. Ce parcours a le mérite de montrer que le pays était secoué par sa jeunesse concernée par son avenir, ce qui n'est pas nouveau mais vaut le coup d'être rappelé.
You chose our side, the side of freedom. You see a child attacked by savages, you'd step in.
La France n'est pas un enfant, Monsieur le Président. Elle a toujours continué à se battre. Roosevelt compte occuper la France, l'amputer d'un tiers.
Perhaps we need to talk to Roosevelt.
No, Anthony. We need to win this war.
De Gaulle a souvent le beau rôle, hein, disons qu'il est fait le portrait d'un homme qui refuse de douter que la France puisse redevenir libre. Mais au-delà du portrait de l'homme de conviction et du stratège, le film montre également les étapes décisives comme la bataille de Bir Hakeim. Alors pour moi, ce nom a toujours été une station de métro parisienne. Et rien d'autre. Et cette séquence, eh bien, est adroitement réalisée. Elle permet de sentir en très peu de plans l'engagement de ces hommes, la stratégie déployée et la part de chance, hein, aussi qu'il faut considérer pour chaque bataille. Alors pour peu qu'on ait mal suivi nos cours d'histoire, le film permet d'éclairer l'importance à cette époque-là d'avoir des colonies pour nourrir les rangs d'une armée capable de causer du tort à l'ennemi.
Une seule bataille décidera de tout. Et je vous la confie.
À partir de mon ordre de feu, celui qui n'attaquera pas l'ennemi à chaque fois qu'il le peut sera relevé de son commandement.
Je n'ai pas d'autre option.
Je veux que le monde sache que nous sommes invaincus.
Nous devons être libres.
J'y arriverai.
Ne reculons pas.
Nous ne nous soumettons pas.
Je suis seul face à l'Amérique et seul l'Amérique compte. Il se peut que je sois un obstacle à l'avenir de la France.
La bataille de Gaulle, film épique évidemment, traite autant d'un homme que de notre histoire et se laisse voir alors vraiment agréablement. Le choix de Simon Abkarian pour incarner le général a de quoi surprendre, hein, mais l'interprétation empreinte d'une certaine rigidité dans la posture et d'une raideur morale l'emporte. C'est un sacré changement, hein, de registre pour Antonin Baudry après son Chant du Loup, hein, qui nous emmenait à bord d'un sous-marin nucléaire. Toutefois, il sait parfaitement doser le récit entre joute verbale entre De Gaulle et Churchill, enjeu et action. Voilà, c'est un film que je vous recommande, ce premier volet, hein, du film La Bataille de Gaulle. Changement d'univers. En plein âge d'or de l'aviation, un jeune garçon traverse les États-Unis aux côtés de sa mère et découvre un voyage qui va marquer sa vie à jamais. Nous parlons de Vol de nuit pour Los Angeles.
Bah oui, c'est le film et le film est bien.
Cinérama.
Qu'est-ce qui vous fait dire ça?
Surprise, aujourd'hui on va voler en jet.
Mais non.
John Travolta vient d'avoir une palme d'or d'honneur surprise à Cannes et c'est à l'occasion de la présentation de son premier film en tant que réalisateur que l'on peut revenir battu sa carrière. Alors John Travolta, c'est un artiste que l'on aime parfois sincèrement et qu'on aime aussi parfois sincèrement se moquer. Déjà, c'est une vraie superstar comme on n'en fait plus, hein, qui a traversé plus de 50 ans de cinéma américain, ce qui veut dire qu'il a forcément des très hauts et des très bas. Alors bien évidemment, on se rappelle forcément d'abord de lui pour le cultissime La Fièvre du Samedi Soir, hein, très grand film désespéré, glamourisé à tort, hein, dans l'inconscient collectif par sa bande de son disco. Toujours autour de la piste de danse, il a bien sûr Grise dans la foulée, mais pour d'autres, hein, c'est la révélation puis le génie absolu, hein, à l'œuvre chez Brian De Palma avec Carrie, puis le chef-d'œuvre qu'est Blowout, hein, film qui poussera Quentin Tarantino à recruter Travolta alors en totale perte de vitesse pour lui redonner une carrière grâce au méga carton de Pulp Fiction. Fini la chute, hein, dans les comédies pas très inspirées du style Allô Maman Ici Bébé ou l'aérobic érotico-vulgos, hein, de Perfect ou Staying Alive et Bonjour John Woo, Barry Sonnenfeld, Terrence Malick et même Costa Gavras. Ici, hein, comme le protagoniste principal de Vol de nuit pour Los Angeles, on tutoie les cimes.
Embarquement immédiat.
Il apparut devant moi, un pur joyau de l'aviation civile, mon premier amour.
Bienvenue à bord.
J'arrive pas à croire que je vole pour de vrai.
Cette expérience resterait gravée dans ma mémoire. Et me voilà à bord de cet avion pour l'un des plus longs courriers de la compagnie.
Hélas, hein, son implication très active dans la scientologie et sa volonté de porter à l'écran la saga de SF métaphorique ou pas de son fondateur Ron Hubbard, hein, Terre, champ de bataille, donnera l'un des films les plus drôles et fous du début du 21e siècle. Les rires sont à la hauteur, hein, du mythe stratosphérique, mais l'image qu'on en retiendra sera celle d'hommes préhistoriques qui apprendront à très peu de temps à piloter des avions de chasse pour éclater des vilains aliens. Alors ici, Travolta ne fait que produire, mais on le voit, il y a déjà des avions. Car l'autre passion de John, hein, en dehors du jeu d'acteur, bah, c'est l'aviation. Comme comme Bruce Dickinson et le chanteur d'Iron Maiden, hein, il est connu pour sa maîtrise absolue du pilotage, et c'est donc tout naturellement, en bon auteur qu'il est, qu'il s'est tourné vers ce sujet pour sa première réalisation. Alors Propeller One Way Night Coach, traduit chez nous par un plus clair mais plus générique vol de nuit pour Los Angeles, est tout simplement un panégyrique dressé à l'aviation, hein, celle qui a bercé ses jeunes années et l'a fait rêver. Alors j'ai bien dit auteur, hein, car il aurait pu s'intituler John Travolta, le film. John Travolta produit, un film écrit par John Travolta, d'après le roman de John Travolta. La réalisation est confiée à John Travolta, hein, qui accompagne le spectateur via une voix off et s'offre un tout petit rôle décisif à la toute fin du film. Ah, et si vous n'aviez pas remarqué sa fille Ella Bleu Travolta dans le rôle de l'hôtesse de l'air Doris et sa sœur Margaret Travolta dans celui d'une passagère, vous les verrez ainsi que toute leur famille, les Travolta hein, donc, remercie un par un en début de générique de fin. La famille s'envoie en l'air, on vous le dit.
Le voilà, vol de nuit pour Los Angeles, avec plusieurs escales à Pittsburgh, Chicago, Kansas City, Denver et Los Angeles.
Je ne pouvais pas imaginer que la vie fût plus belle. Le soleil brillait et je mangeais un hot dog à 960 km/h.
Le déjeuner est prêt. On appelle ça un cordon bleu.
Maman, j'aime pas trop ça. Je peux avoir un autre hot dog ? Waouh, c'est génial !
Et génial, ça l'était.
Ce qui est sûr, c'est que John Travolta se livre tout entier et sans aucun filtre à sa vision délicieusement vintage que lui offre cette histoire. Et ça commence directement par un générique de début en animation qui rappelle celui du « Attrape-moi si tu peux » de Steven Spielberg, cherchant lui aussi à encapsuler une époque à travers les yeux quelque peu coquins de son protagoniste principal. L'action commence le soir du 28 décembre 1962 à l'aéroport d'Idlewild à New York. En plein âge d'or donc de l'aviation, Jeff, un jeune passionné d'aéronautique, s'envole à côté de sa mère pour en aller sans retour vers Hollywood en traversant tous les États-Unis. Alors ce qui n'aurait pu n'être qu'un simple vol devient le voyage d'une vie et la confirmation d'une passion et au-delà de ça, d'une vocation. Alors entre les plats servis à bord, l'attention des hôtesses, des escales imprévues, les voyageurs hauts en couleur et un passage marquant par la première classe, l'aventure réserve des moments magiques, surprenants, marquant le destin du jeune garçon à tout jamais. Jeune garçon qui est bien évidemment un jeune Travolta, un romancé, qui nous livre ses souvenirs d'enfance et de jeunesse.
Jeune homme que voici qui est né pour voler.
Installez-vous et profitez du voyage.
Le côté niais, hein, voire l'échec artistique annoncé ici et là de la part de l'immense majorité de la critique n'est pas très important en fin de compte. Malgré ses faux pas, Travolta est un artiste immense hein, qui a su habiter et habiller de nombreuses performances marquantes au cours de ses plus de 50 années de carrière et il avait tout à fait le droit hein, de s'abandonner dans quelque chose qu'il aime et cette fois-ci sans idéologie douteuse. Alors quand un film respire autant l'amour, hein, il est absolument inutile de revêtir un quelconque cynisme hein, car c'est une balade doucereuse dans la main d'un passionné. Et c'est aussi pour ça qu'on aime le cinéma hein, quand il revient à sa notion principale, l'émotion. Et même si le film ne vole pas forcément bien haut, il atteint néanmoins sa destination, le cœur.
Et pour voir la famille Travolta, donc, il faut se brancher sur Apple TV+. Dans les coulisses d'une production de Les Noces de Figaro, une accusation d'agression sexuelle fait vaciller toute la création. Nous parlons du dernier film d'Agnès Jaoui qui va nous donner l'occasion de jouer un blind test et puis même d'entendre la réalisatrice et actrice.
Cinérama.
Je comprends pas. Qu'est-ce que tu comprends pas ?
Actualité, cinéma et tout le reste.
Pas très compliqué à comprendre.
C'est les noces, c'est joyeux. Ça doit être léger, ça doit chuchoter, ça... Et puis après, ça explose !
Tu avais fait tes premières noces avec moi il y a 30 ans.
30 ans déjà, oh mon Dieu !
Après la mort de Jean-Pierre Bacri en 2021, Agnès Jaoui a continué de prendre des rôles au cinéma, mais n'avait plus rien réalisé depuis Place Publique. La voilà qui revient avec L'Objet du délit, un film de troupe hein, qui nous fait plonger dans l'univers rare au cinéma de l'opéra. Un milieu qui n'est pas inconnu pour Agnès Jaoui, car elle a été metteuse en scène de 3 opéras, dont récemment encore Don Giovanni de Mozart. Il est précisément question de Mozart hein, dans cet Objet du délit, car nous assistons à la production des Noces de Figaro. Il s'agit d'une grosse production à la tête des musiciens, chef d'orchestre réputé mozartien, Igor, joué par Daniel Auteuil. Et puis dans les têtes d'affiche, il y a aussi la cantatrice Anna, jouée par Jaoui, le ténor Piazzoni, qu'il ne faut pas faire attendre. Mais pour la mise en scène, eh bien c'est Mirabelle, une égérie de la mode, qui est en charge de faire bouger les chanteurs. C'est sa première mise en scène. Ce qu'elle veut obtenir, c'est transmettre la déconstruction du patriarcat, car elle estime que Mozart, comme Beaumarchais, était féministe avant l'heure.
Enfin, vraiment toute nouvelle aventure pour moi, parce que c'est ma première mise en scène.
Vous assurez le poste de première assistante.
Moi, je sais pas, là, si je...
Il faut bien une première fois, en tout cas, c'est ce que je me suis dit à moi-même. Hein, Samir, elle est capable.
Oh, bah moi...
Je...
Ah bah oui.
Je sais pas.
Bah oui, c'est la première fois pour tout le monde, c'est parfait. C'est parfait, c'est la preuve que ça va bien se passer.
Vous savez ce qu'est l'amour, mesdames, voyez si je l'ai dans le cœur. C'est ce passage de Chérubin que chantent les candidats à cet opéra dans la séquence d'introduction. Une manière habile de nous faire entrer dans ce monde de l'art lyrique qui est défini comme élitiste. Entre 40 et 180 euros la place d'opéra, tout le monde n'est pas spectateur. C'est une mise en scène chorale que choisit Jaoui pour accompagner cette écriture qui s'intéresse alors autant au premier rôle qu'au second et même aux techniciens ou administrateurs. Le rôle de chacun est trouvé, les derniers financements grappillés, mais lors des répétition sur le décor dans le sud de la France, eh bien, un moment devient problématique pour une comédienne. Elle accuse le ténor Piazzoni, qui n'a eu de cesse de prendre tout le monde de haut, d'avoir eu la main bien trop baladeuse lors de la séduction de Suzanne. Nous, spectateurs, remarquons la gêne de la chanteuse, mais celle du geste qui est précisément celui écrit par Beaumarchais. Mais comme Piazzoni a aussi fait des remarques sur le quota, car le rôle de Chérubin a été pris par une chanteuse noire, son compte est bon. Il a beau se défendre en disant que cette scène a toujours été jouée comme ça, et la metteuse en scène, eh bien, elle regrette de ne pas avoir mis en place de safe space, soit avoir demandé de respecter la distance entre les deux corps, eh bien, il est voté son renvoi. Mais celui-ci aura de lourdes conséquences sur la suite, et ce nœud dramatique est celui du film sur lequel plane dès le début MeToo, puisqu'une cantatrice italienne révèle de jeter le nom de 10 personnes qui l'ont abusé sexuellement dans le milieu, ce qui est un running gag d'inquiétude pour le chef d'orchestre joué par Daniel Auteuil, parce qu'il se demande à chaque fois, eh bien, quand est-ce que cette liste va sortir et s'il est dedans.
Stop là, stop, stop.
Arrête de hurler, Cora.
Mais c'est toi qui hurles.
C'est juste pour qu'on voit la sororité de la scène.
Bon, on va pas passer une heure ici.
Elle n'y connaît rien. C'est leur principe à opérer des fleurs. Il y a plein de gens connus qui n'y connaissent rien.
Ça me stresse. J'aime pas quand elle me touche.
C'est-à-dire?
Non, rien.
Les discussions qui importent sur ce qui s'est passé sur le plateau sont bien orchestrées par Jaoui. Lors d'une assemblée générale improvisée, il y a les boomers, héritiers d'une certaine tradition de la main aux fesses, et les woke ou la génération Z qui ont questionné les rapports humains depuis MeToo. Il y a aussi ceux qui sont entre les deux, incapables de trancher. Cette troupe est à l'image de la société. Chacun parle et il est parfois difficile de s'écouter. On entend alors les propos des féministes radicales, mais on attend aussi moins d'emballement. Il y a toujours cette question qui revient. Ce que j'ai fait dans le passé sous d'autres mœurs, en suis-je vraiment responsable? Et puis plus largement, quand il s'agit de création, il faut se demander quoi faire de certaines œuvres qui portent en elles la domination du patriarcat ou l'inégalité entre les sexes. Dans le film, la mise en scène est on ne peut plus grossière puisqu'il y a des phallus géants sur scène, des pièces de décor qui auront leur importance.
C'est la situation aussi.
Quand même,
agressée.
Ça m'étonne pas de lui.
Ah bah voilà.
Mirabel veut inscrire dans la mise en scène une image forte du patriarcat.
Donc il en faut deux en plus.
Et deux, et plus quoi ?
Deux bites ! Elle veut plus de bites !
Si vous voulez bien vous adosser à la colonne de gauche, par exemple.
Vous voulez que je caresse la colonne ?
Alors, si elle caresse la colonne, c'est évidemment la colonne qui ressemble à un phallus. L'objet du délit vaut autant pour son sujet, comment traiter une œuvre à l'ère post-MeToo, que pour son portrait d'une troupe dont le but reste de faire naître un spectacle de manière collective. Et c'est cette force-là qui prédomine dans le film d'Agnès Jaoui, après que toutes les questions aient été exposées. Il en ressort une sorte de joie, peut-être aussi que c'est la fiction qui a repris le dessus et que la réalité qui brasse toutes ces questions a pu être mise en suspens. On rit finalement dans ce film qui est plein de générosité, c'est le terme souvent qu'on dit quand les choses sont aussi bien faites. Nous allons entendre Agnès Jaoui, la réalisatrice. J'ai eu le plaisir, alors non pas de lui parler de L'objet du délit, son film, mais pour lui parler mise en scène de l'opéra Don Giovanni de Mozart, mais je lui avais posé quand même une petite question sur son film, on l'écoute.
Oui, ça permet de continuer à vivre avec Mozart, éventuellement faire connaître à d'autres, des gens plus néophytes, ça me permet de travailler avec mes amis chanteurs et ça c'est une joie. C'est un thème que je trouve intéressant sur comment ça rebat les cartes, sur justement de le mettre aussi en perspective avec une pièce qui dénonce le droit de cuissage, l'agression sexuelle aussi du puissant vis-à-vis des faibles. Pas des faibles, des inférieurs hiérarchiques, etc., et qui Et ça permet de voir où on en est. De façon générale, la question du féminisme m'intéresse beaucoup.
Voilà, c'était Agnès Jaoui qui nous parlait de L'objet du délit. Ça nous donne l'occasion de jouer un blind test, alors non pas autour de ses films, les films qu'elle a réalisés, mais de Agnès Jaoui en tant qu'actrice. Elle en a tourné alors une trentaine de longs métrages, hein, quand même, depuis les années 80. Cinq extraits, il faut trouver le titre. Premier extrait, ça va être facile.
Bonsoir. Bonsoir, on peut manger quelque chose ?
Oui. Tenez, vous avez tout ce qu'il y a là, à partir de là. Tu me reconnais pas ?
Non, non.
C'est pas grave.
Mademoiselle, je vais prendre un mixte jambon-fromage, finalement.
D'accord.
Mais on se connaît d'où exactement ? Excusez-moi, hein, mais je...
Ça n'a aucune importance. On a juste couché ensemble.
On a couché ensemble
Oui, mais il y a longtemps. Je me suis coupé les cheveux depuis. Et puis on était bourrés tous les deux, certainement.
Non, mais c'est quand même incroyable que je m'en souvienne pas. Donc.
C'est pas grave. Ça arrive. Plus souvent aux garçons, mais ça arrive. C'est normal, on n'est pas constitué physiquement pareil. C'est pas la même action, c'est pas la même implication. Non, laisse tomber.
Alors, c'est trouvé.
C'est Le goût des autres.
Oui, film de 2000, donc qu'elle a coécrit avec Jean-Pierre Bacri, un chef d'entreprise tombe amoureux d'une comédienne qui lui donne des cours d'anglais, deux mondes que tout oppose se rencontrent entre préjugés sociaux et quête de reconnaissance. Quatre Césars, dont celui du meilleur film et meilleur scénario original, et 3,8 millions d'entrées en France. Deuxième extrait de ce blind test, nous cherchons un film avec Agnès Jaoui en tant qu'actrice.
Elle est cloîtrée chez elle, tu vois, si elle pouvait passer chez Castro.
Chez Castro ?
Elle sort presque jamais. Elle a tellement peur de se faire expulser.
Et tu dis qu'elle est afghane ?
Voilà.
Ouais, 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 c'est hyper émouvant comme histoire. Mais celle-là, comme des milliers d'autres.
Ça veut dire qu'il faudrait rien faire ?
Putain, j'ai pas dit ça, Hélène, commence pas.
J'adore quand t'es condescendante comme ça avec moi, toi. Ça me rappelle papa.
On va repartir là-dessus, là ?
Non, je repars sur rien du tout, c'est un sujet qui me tient à cœur.
Bon, et tu veux donc ?
Parce que je t'ai dit.
Qu'elle passe chez Castro ?
Voilà.
Non, mais sans déconner, Hélène.
Quoi ?
Tu la vois l'émission, tu vois bien les gens qu'on invite. Tu veux me dire le rapport avec ton afghane ?
Ben, il n'est pas toujours obligé d'inviter les mêmes gens. C'est toujours la même chose. Qui couche avec qui a dit quoi de qui ? Il peut lever le débat, c'est pas interdit. Si on éduque les gens, ils apprécient à la fin.
Non, mais arrête avec cette théorie à la con de si on leur donnait autre chose, ils regarderaient autre chose. Quand on leur donne autre chose, ils regardent pas. Les émissions intéressantes, c'est tellement intéressant que personne ne les regarde.
Je trouve ça très bien écrit. Encore une fois, c'est du Bacri Jaoui. C'est Place publique de 2018.
Ah, j'ai pas vu.
Ah oui, lors d'une fête dans une maison de campagne, amis artistes et célébrités voient leur certitude vaciller, une comédie douce amère sur l'image que l'on renvoie aux autres. 535 000 entrées en France pour ce film. Allez, encore un extrait, il faut trouver le titre.
C'est pas possible de se complaire à chaque fois dans cette noirceur, dans ce défaitisme. Si encore t'avais écrit 15 livres, mais t'en as écrit deux, alors oui, tu dis n'importe quoi. En plus, ces deux livres, ils existent. Hein. T'as eu d'excellentes critiques.
Une bonne critique.
Non, t'en as pas eu qu'une. Enfin bon, il y a plein de gens qui ont aimé ce que t'as écrit. T'as un troisième livre qui va sortir, c'est plutôt une belle perspective.
Je le trouve nul.
Hein ?
Je le trouve nul.
Je le trouve nul ? Est-ce que j'ai dit une chose pareille ? J'ai dit que je trouvais le ton un peu plus léger. Tu te rends compte comme tu déformes les choses ?
Alors, ça n'a pas été trouvé ici dans les studios. Film de 2004, une jeune femme complexée cherche désespérément le regard de son père, un écrivain célèbre et égocentrique. Et autour d'elle, chacun tente de trouver sa place et d'être enfin entendu. Encore le César du meilleur scénario original. Et c'est le film comme une image. Allez, encore un extrait.
Alors ?
Quoi ?
Qu'est-ce que vous en dites ?
De quoi ?
Ben, de l'appartement.
Bah, il est bien, il... Non, mais il est très bien.
Les baisers dans le cou,
sacrable.
Les caresses un peu partout,
oh, mon Dieu.
Les papouilles, les grappouilles,
oui.
Et le reste, ma grande
fille. Aimez-vous un homme fou?
Ça dépend.
Absolument fou de vous.
Et comment?
J'en peux plus.
Moi non plus.
J'ai foutu.
Qu'attends-tu?
Mais le reste.
Et bien plus qu'on est d'accord,
on est
les bras
et même plus encore,
et ne pensons plus qu'à nous, les gens s'en foutent.
Elle viendra plus là maintenant, je vais peut-être y aller moi.
peut l'attendre encore un peu.
Alors, ça a été trouvé ?
Oui, si on connaît la chanson d'Alain René.
Oui, film de 1997. Alors pourquoi j'ai mis ce film en avant ? Eh bien, c'est parce que Agnès Jaoui a remporté le César du meilleur second rôle féminin à ce moment-là. 2,6 millions d'entrées pour ce film avec des histoires d'amour et des malentendus sentimentaux qui s'entrecroisent dans le Paris des années 90. Et les personnages expriment leur émotion en reprenant de célèbres chansons françaises.
Mais justement, ce qui est intéressant, c'est le fait qu'ils ne reprennent pas vraiment. Ce sont littéralement les chansons d'époque. C'est un parti pris assez audacieux parce que d'habitude, on a l'habitude des comédies musicales où on reprend littéralement les chants, mais c'est les acteurs qui chantent ou les doublures. Là, c'est
la version originale. Ouais. Oui, tout à fait. Allez, dernier extrait de ce blind test.
Je voulais te voir pour te parler, mais je sais pas, t'as pas le temps là.
Mais si, vas-y, dis-moi.
Je sais pas, là, comme ça, on peut pas.
Je peux te rappeler dans 5 minutes. Hein, je te rappelle. Vas-y, je t'écoute.
C'est à propos d'un documentaire. Parce qu'en ce moment, je travaille avec un reporter, enfin, un documentariste.
Toi, tu travailles avec un reporter? Tu travaillais pas dans un restaurant ou dans un hôtel ?
Dans un hôtel, je suis réceptionniste dans un hôtel. Mais je fais ça pour vivre, c'est pas une vocation. À côté de ça, je fais des petits films depuis
pour... Ah bon, tu fais des petits films ? Mais c'est bien ça. Quel rapport avec moi ?
C'est une série de films sur les femmes qui ont réussi.
Les femmes qui ont réussi ? C'est ridicule.
Voilà. Et on pense à toi.
Alors, ça n'a pas été trouvé.
Non, j'ai reconnu Jamel, mais...
Eh oui. Grand copain de Jean-Pierre Bacri, c'est Parlez-moi de la pluie, film de 2008. Une femme politique revient dans sa région natale pour écrire un livre sur des femmes engagées. Ce séjour réveille souvenirs, tensions familiales et vérités enfouies. 1 million d'entrées en France pour ce film. Ainsi s'achève ce blind test consacré à la filmographie d'Agnès Jaoui. Dans un camp d'été, la rumeur d'une peste propage et fait basculer les adolescents dans un jeu où la réalité se brouille. Nous parlons de The Plague.
À quoi sommes-nous confrontés ?
Cinérama.
C'est quoi ça ? Une blague ou quoi ?
En 2025, au Festival de Cannes, était présenté The Plague, soit la peste, film remarquable de l'américain Charlie Pollinger, qui n'a rien récolté sur la croisette, mais reparti du Festival de Deauville 2025 avec le grand prix, celui de la critique, reste plus que les spectateurs à convaincre. The Plague fait partie de ces films très réussis sur l'adolescence, un exercice finalement toujours délicat, car c'est un adulte qui organise le récit, et c'est celui de Ben qui intègre un stage de water-polo. Tout le monde se connaît, il doit s'intégrer, il est témoin d'un jeu cruel à l'encontre d'un des stagiaires qui est marginalisé, son eczéma se transformant pour les pré-ados en peste. À mesure que le film avance, il se demande si cette peste dont est affublé le souffre-douleur n'est pas réelle.
First day in camp, pretty good.
No, yeah, good.
I know this whole thing could be a little daunting.
Nous voilà plongés dans un univers où des garçons ont encore des corps dans l'enfance, mais des hormones qui les font exulter, tchatcher, se moquer, se jauger, tenter de prendre le pouvoir. Comme le dit Ben, tu ne peux être toi-même que si ta personnalité plaît aux autres, sinon tu n'es personne. Dans cette communauté de gamins en huis clos, le réalisateur filme les jeux de pouvoir, de domination, d'exclusion, en plaçant son personnage principal face à ses choix. Lui ne mange pas de viande et est enclin à prendre la défense des opprimés, si bien que Ben se lie à Ellie, donc celui qui est surnommé la peste, gamin vivant dans sa bulle entre puérilité et maturité un peu étrange. De quoi mettre en péril sa place dans le groupe.
Pick it up.
So what's with Eli?
Eli's got the plague.
It's not funny, bro. Why are you doing this to me?
Portrait de groupe, immersion dans la fabrique de l'exclusion, du harcèlement, de l'humiliation. Le réalisateur se plaît aussi de suivre la vie des enfants dans ce stage de water-polo où le sport, où les coups sont permis et où il est question de surnager devient une métaphore de ces tâches de transition. La mise en scène est vraiment remarquable. Il y a la précision des situations et des dialogues. Il y a également les ralentis comme cette séquence où les filles débarquent en maillot de bain à la piscine devant des réactions alors contrastées entre hébétement et rire gêné. Un soin particulier est apporté au son qui laisse planer une atmosphère de thriller et surligne les instants clés ou dramatiques. Le casting est aussi remarquable entre le personnage de Ben, tout en sensibilité et acuité, tentant d'échapper à la peste, celui atteint de la peste qui a un côté... moi j'ai pensé vraiment à La Baleine dans Full Metal Jacket, et puis Jack, le blondinet, parfait meneur, manipulateur et tête à claque, très vite repérable. Autant vous dire que je vous conseille ce film de Plague de Charlie Pollinger.
Je vous trouve si nerveux, quelque chose ne va pas ?
Terminé pour aujourd'hui.
Pas si vite. Excusez-moi encore de vous avoir dérangé.
Ça ne me dérange pas le moins du monde.
Je
Je ne comprends pas ce que vous essayez de me dire.
Elle lui arrive quoi, elle ?
Au revoir.
Pardon ?
J'espère que nous aurons le plaisir de vous revoir.
Oui, ça ne fait aucun doute.
Ça ne servirait à rien de le nier.
Merci.
La semaine prochaine, Guillaume, toi, tu vas aller voir...
Je vais tenter Scary Movie, le sixième héros renouveau, apparemment.
Ouais, ben, bon courage. Et moi, je vous parlerai du dernier Quentin Dupieux, Le Vertige. À la semaine prochaine.